Que le Seigneur vous bénisse et je voudrais vous dire que le temps de louange qu'on vient de passer est vraiment conduit par le Seigneur. Le Seigneur était présent, on le sait, mais Véronique et moi, on s'est regardés souvent et on s'est dit, c'est pas possible, le Seigneur, il conduit tout là. Il nous a parlé, le Seigneur, ce matin de la sainteté dans plusieurs prières et puis aussi de la tiédeur. Et figurez-vous que nous, on a découvert un livre il y a plusieurs mois que j'ai déjà lu 4 ou 5 fois et que je vous conseille et qui s'appelle « L'Église messianique se lève ». Franchement, je vous le conseille. Ça coûte 17 € à la CLC. Et dans ce livre, il y a entre autres un chapitre sur la sainteté. Alors j'ai bien étudié cette question et j'ai repris cette question. Je voudrais vous parler ce matin de la sainteté. Donc ça va vraiment dans ce que le Seigneur a initié ce matin ensemble. Voilà, ça va, c'est bon, ça résonne là. C'est Odette qui a... Bon. Alors c'est vrai que... La question de la sainteté, ce n'est pas toujours très clair dans l'esprit des chrétiens. Il faut dire que quand on pense aux saints catholiques, ça n'a rien à voir avec ce qui est expliqué dans la parole de Dieu. Donc on a été certainement formaté pour comprendre ce mot d'une certaine façon. Et vous allez voir, c'est tout à fait différent. Tout à fait différent. Je vais d'abord vous dire ce que c'est pas la sainteté. Donc la sainteté, il ne faut pas confondre sainteté et pureté. Ça n'a rien à voir. Donc déjà, ça c'est choquant, vous voyez. Bon, par exemple, Dieu dit que le jour du sabbat est saint. Est-ce que les autres jours sont mauvais? Non. Les autres jours de la semaine ne sont pas mauvais. Mais ce jour-là, il est différent. Vous voyez? Donc ce n'est pas une question de péché, pas péché, non. C'est donc parce que les autres jours, Dieu les a trouvés bons. Donc vous voyez que... Bon. Un deuxième exemple, si vous voulez... Quand Moïse s'est trouvé devant le buisson ardent, Dieu lui dit « Retire tes chaussures parce que le lieu où tu te trouves est saint. » Est-ce que ce buisson avait moins de péché que le buisson d'à côté? Pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est parce que Dieu était présent. Et donc cet endroit-là, à ce moment-là, il était spécial. Spécial. Et donc, le contraire de saint, ça n'est pas impur ou injuste, mais c'est ordinaire. Le contraire de saint, c'est ordinaire. La sainteté et la pureté, c'est vraiment deux choses différentes. D'accord? Alors, pour donner une définition simple de la sainteté, la sainteté peut être pris par le mot spécial. C'est spécial. D'accord? Et Dieu considère comme saint un tas de choses que nous devons aussi considérer comme saint. D'accord? Et il faut l'honorer comme tel. Quelque chose de spécial n'est pas quelque chose d'ordinaire. Voilà. Et donc, c'est mis à part de l'ordinaire. C'est simple à comprendre, ça. Mais on est tellement, j'allais dire, formaté, endoctriné, qu'il faut le reprendre plusieurs fois, vous allez voir. Donc, je vais me répéter plusieurs fois. Et puis, on va voir au fur et à mesure. Donc, on peut dire que quelque chose qui est saint va être mis à part pour quelque chose de particulier. Voilà. Alors, par exemple, pour donner quelque chose à comprendre de facile, souvent, dans nos maisons, On a deux services à vaisselle. Un qui sert tous les jours, et puis un qu'on va sortir le dimanche et les jours de fête. Hein? C'est comme ça, hein? Bon, alors celui qui est tous les jours, il est propre, hein? Parce qu'on fait la vaisselle, mais dans le lave-vaisselle, alors il sort un petit peu blanc, hein, à la fin, d'accord? Et puis, bon, on n'y fait pas très attention. Ça sert tous les jours. Mais le service en cristal de grand-mère, dont on a hérité, hein, vous savez, on va s'en servir dimanche. Mais quand on s'en sert, il est sale. Il est sale. Et ça m'étonnerait que vous ayez l'envie de le ranger sale. Donc vous allez bien l'astiquer, regarder à travers s'il n'y a pas des traces, parce que c'est du cristal, tout ça, on l'essuie bien, et on va le ranger. Et c'est-à-dire qu'il a un traitement spécial. Vous voyez? Mais il sert à la même chose. Il sert à la même chose. Donc voilà. Donc il peut être sale. Et d'ailleurs, le Seigneur nous a dit de laver nos pieds tous les jours, hein, et de laver les pieds du copain d'à côté. Alors, on va donc considérer les choses simples. Les choses saintes, excusez-moi, qui sont simples aussi d'ailleurs. Et la parole nous dit que si Dieu dit que telle chose est sainte, et que nous, on la considère comme ordinaire, eh bien Dieu dit ça, c'est une profanation. C'est le mot qui est utilisé. Par exemple, Saül, vous voyez, Ésaü, quand il a mangé le plat de riz, le plat de lentilles, il a lâché son droit d'aînesse, qui était une chose à ne pas profaner. C'était quelque chose d'important. Il a considéré ça comme ordinaire, que ça n'avait pas de valeur, etc. Eh bien, la Bible dit dans l'hébreu qu'il a profané. C'est un profanateur. Vous voyez le mot qui est utilisé. D'accord ? Alors, c'est important de connaître ce que Dieu déclare comme saint. Parce que quand on observe ce que Dieu déclare comme saint et qu'on le traite comme ça doit l'être, alors on marche dans la sainteté. Ben oui, tout s'enchaîne. D'accord ? Et alors, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 44, au verset 23, il nous est dit que les responsables, et à l'époque c'était les Lévites, ils enseigneront à mon peuple ce qui est saint et ce qui est profane. Vous voyez, ça c'est aussi le rôle des responsables dans les églises, d'enseigner la différence entre ce qui est saint et ce qui est profane. Et je vous assure, c'est ma prière, que quand on comprend ces choses-là, la flamme, elle revient. Vous savez, la flamme, ton premier amour, ça revient parce que tu dis, Seigneur, ça, tu l'as déclaré, ça, maintenant, je vais faire attention. Tu vois, c'est comme si Dieu nous disait, regarde, et il détourne nos yeux sur telle chose ou telle chose. Tu vois, ça, c'est saint, ça. Voilà. Et Dieu veut ranimer. Alors, par exemple, mais j'en reparlerai tout à l'heure, pour la Sainte Cène qui est déclarée sainte, celui qui considère que la Sainte Cène c'est n'importe quoi, et qui prend la Sainte Cène n'importe comment, de quel pire châtiment, et on parle de la mort, de quel pire châtiment pensez-vous que ce sera jugé digne, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Vous voyez, celui qui aura profané le sang de l'Alliance. Eh bien, vous savez bien que ceux qui profanent le sang de l'Alliance, parmi eux, il y a des malades, des morts, etc., etc. Il y a des conséquences. Alors, il faut honorer ce que Dieu déclare saint. Et quand Dieu déclare quelque chose de saint, eh bien, sa présence y est associée. Et quand on profane quelque chose qui est déclaré saint, sa présence s'en va. C'est aussi simple que ça. Vous voulez la présence de Dieu ? Faites attention à ce qu'il dit. Alors, ça veut dire qu'il faut traiter ces choses comme spéciales, comme particulières. Et vous voyez, il y a des paroles, on n'y fait pas toujours attention, mais Matthieu 7, 6 nous dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne vous les foulent les pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. » Les choses saintes, ce n'est pas donné à n'importe qui. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un tour dans la Bible et on va voir 10 choses que Dieu déclare saintes. On va les passer en revue. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que pratiquement tout le temps, quand on honore comme il faut des choses déclarées saintes par Dieu, eh bien, il y a des bénédictions qui sont associées. Vous savez, c'est comme si, en déclarant les choses saintes et en les honorant de telle sorte, c'est comme si on mettait notre bras dans le troisième ciel, et puis, hop, ça coule le long du bras, la bénédiction. C'est tout simple. Hein? Alors, on va commencer, si vous voulez, la première chose que Dieu déclare. Il n'y a pas d'ordre chronologique, hein? C'est dans tous les ordres. La dîme et les offrandes. La dîme et les offrandes, on vient juste d'en parler. Gloire à Dieu, vous êtes à flot. Merci Seigneur. C'est tout à l'honneur de Dieu. Alors, dans Lévitique 27, je peux relaisser mon papier après si vous voulez. Hein, vous pourrez en faire des copies, il n'y a pas de problème. Hein. Toute dîme de la terre et toute semence de la terre, du fruit des arbres, est à l'Éternel. C'est une chose sainte à l'Éternel. Vous voyez ? Et si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième par-dessus. Quant à toute dîme du gros et du menu bétail, tout ce qui se passe sous la verge, la dîme sera sainte. C'est-à-dire consacré à l'Éternel. Ça, c'est la traduction de Darby. Donc, Dieu a volontairement relié la dîme à un principe qui nous est expliqué dans le livre de Malachie, que vous connaissez tous. Qu'est-ce qu'il dit, Malachie ? Il dit, vous êtes frappés par la malédiction. Vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à ma maison du trésor toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Vous savez, si vous ne donnez pas votre dîme, vous n'irez pas en enfer pour ça. Mais vous n'aurez pas la bénédiction qui est marquée. Moi, je voudrais vous donner un exemple que j'ai vécu il y a fort longtemps, parce que c'était au début de notre conversion. Bon, j'étais jeune ingénieur, j'avais un emploi, tout allait bien, et puis jeune converti, et j'avais promis au Seigneur de donner ma dîme. Je ne suis pas obligé, hein, mais je lui avais promis. Bon, et je devais vendre une machine. Et cette machine, je n'arrivais pas à la vendre parce que je ne sais pas vendre. Je ne suis pas commercial, moi. Bon, ça va pas, j'ai pas vendu. J'en ai vendu 3-4 et puis ça s'est arrêté là, quoi. Donc, naturellement, mon patron m'a appelé. Il m'a dit, monsieur Sten, ça va pas bien, hein. Ben, j'ai dit, oui, je sais. bon, alors, évidemment, j'étais pas trop fier. Et vous savez ce que j'ai fait ? Je me suis dit, je vais me faire virer. Donc, je vais mettre des sous de côté. Et j'ai pris ma dîme, je l'ai mise de côté. J'ai dit là, vous savez, hein, on n'est pas trop fiers hein, quand c'est comme ça. Et puis au bout de quelques mois, ça a duré quelques mois, mon patron m'appelle et me dit, monsieur Sten, c'est fini. Hein. Il dit, oui. Et puis ce jour-là, figurez-vous que le Seigneur m'a repris. J'ai dit, Seigneur, tout cet argent que j'ai mis de côté là, c'est à toi. Alors j'ai fait le total et je l'ai donné au Seigneur. Je me suis retrouvé à sec, hein, et sans emploi. Le lendemain, le même patron m'appelle. Il me dit, Monsieur Sten, il y a une place de prof dans telle école. Ah ben, je me suis présenté, c'était mon école, là où j'avais fait mes études. Je me retrouve devant mon directeur, je lui dis, Monsieur le directeur, je sais que vous allez me prendre, c'est le Seigneur qui m'envoie. Et depuis, j'ai fait toute ma carrière là-dedans, et je termine à la fin du mois. Vous voyez, la dîme, honorée, et le Seigneur. Alors je dis toujours à mes enfants, et puis à tous ceux qui veulent bien m'écouter, je leur dis, si vous vous occupez des affaires de Dieu, Dieu s'occupe des vôtres. Ça, c'est mathématique. Mais il y a toujours ce pas de foi là derrière. Seigneur, si je te donne tout, j'ai plus rien. Voyez, donc la dîme, c'est une chose sainte. Après, il y a des temps, des moments qui sont saints, que Dieu déclare saints. Par exemple, Dieu, dans Genèse 2:3, il nous dit « Dieu bénit le septième jour, il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée. » Et dans le livre de l'Exode, c'est devenu un ordre. Hein, c'est le quatrième commandement. Hein. Vous savez que ça se découpe. Les trois premiers commandements sont pour Dieu. « Tu honoreras », etc., hein. Et puis les six commandements qui sont à la fin, c'est pour les relations avec les hommes. Hein, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne tueras pas, etc. Enfin bref. Et c'est comme s'il y avait une aiguille avec trois commandements pour Dieu, six pour les hommes, et au milieu, c'est le sabbat. C'est le sabbat. Et vous savez, le sabbat, c'est le Seigneur l'a donné, le sabbat. C'est pour notre santé. C'est pour nous qu'il l'a donné. Parce que quand vous achetez une voiture, si vous voulez que votre voiture fasse 600 000 km, c'est possible, à condition de l'entretenir. Et bien, si vous voulez les vivre vieux et en bonne santé, c'est possible. Pratiquez le sabbat. Mais oui, c'est de l'entretien, tout simplement. Et Dieu l'a honoré. Hein, c'est pour nous qu'il a donné le sabbat, et il a donné l'exemple, puisque lui aussi s'est fait un sabbat. Alors, c'est formidable. Et même, il nous a dit, tu travailleras six jours, tu feras tout ton ouvrage, mais septième jour, c'est le jour du repos de l'Éternel. Tu feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, parce que le bétail travaillait, ni l'étranger qui est dans tes portes. Vous vous rendez compte? Quel ordre? Et hop, c'est le repos. Et le repos, ça veut dire, ça veut pas dire qu'on fait rien, hein. Peut-être qu'un jour, je vous parlerai du sabbat, mais dans le repos, on peut faire un tas de choses, mais des tas de choses qui sortent de l'ordinaire. Vous voyez? Et Dieu a relié le sabbat à un principe qui est celui-ci, dans Ésaïe 58, versets 13 et 14. « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, et si tu fais du sabbat tes délices pour le sanctifier en le glorifiant, si tu l'honores en ne suivant pas tes voies, en ne livrant pas tes penchants et à de vains discours. » De vains discours. Important. « Alors, tu mettras ton plaisir en l'Éternel. » Vous savez, les chrétiens qui ne sont pas joyeux du tout, il faut peut-être quelquefois reprendre sa vie et puis regarder un peu. Mais le sabbat, qu'est-ce que tu fais pendant le sabbat? Est-ce que tu suis ce que le Seigneur dit? Alors tu mettras ton plaisir dans l'Éternel, voyez, ton plaisir. Et là, ça veut dire qu'il y a du bonheur, mais un vrai bonheur profond. Et je te ferai monter sur les hauteurs, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui est attaché à ce que Dieu a déclaré saint, particulier. Et puis, troisième chose que Dieu déclare saint, il y a certains lieux qui sont déclarés saints par Dieu. Il y avait le temple à Jérusalem. Il y avait même un lieu très saint. Donc c'est encore plus exceptionnel. Mais Dieu déclare saint, ça a été le cas de Moïse. On en a parlé tout à l'heure. Moïse, retire tes chaussures. Hein? Et partout où on va adorer Dieu, en esprit et en vérité, alors se trouve là, soit des juifs, soit des chrétiens, on adore Dieu, et bien ce sont des lieux qui sont saints à ce moment-là. Et bien sûr, vous savez qu'il y a des lieux où les chrétiens se rassemblent de façon préférentielle. C'est comme ici, ce qu'on appelle une église ou une synagogue. Eh bien, ces lieux-là doivent honorer Dieu. Nous, on visite beaucoup d'églises, on vadrouille un peu partout. Et je dois dire que, je n'ai pas de parti pris dans ce que je dis, hein, mais quand on va dans les églises des assemblées de Dieu, c'est toujours à la gloire de Dieu. Le bâtiment est à la gloire de Dieu. C'est très rare qu'on trouve une assemblée de Dieu qui soit indigne. Une église, c'est un endroit où on va se rassembler pour honorer Dieu, ça doit être beau. Ça doit être net. Vous voyez ? C'est spécial, un lieu spécial, c'est tout. Et il faut le considérer comme tel. Alors, je voudrais rajouter une autre chose, et ça on en a déjà parlé, mais bon, vous le savez, c'est que nos maisons, là où nous vivons, nous chrétiens, eh bien ce sont des lieux saints. Et ça veut dire que dans nos maisons, on ne doit pas cohabiter avec tout ce qui peut rappeler le royaume de Satan. Donc il faut éliminer nos maisons, toutes les images de faux dieux, et Dieu sait qu'il y en a. Toutes ces histoires-là, on en a déjà parlé ensemble quand même. Hein. Des statues, des masques, tout ce qui peut rappeler le royaume de Satan. Moi, je vois quelquefois, on laisse faire les enfants parce qu'ils ont leur liberté de choix, tout ce que vous voulez. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont coller dans leur chambre des images de dragons, des tas de choses comme ça. Mais attendez, c'est dans votre maison, ça. C'est dans votre maison. Non, la maison, elle doit être à la gloire de Dieu. Donc, il faut honorer ce que Dieu déclare saint. Une maison à la gloire de Dieu n'est pas forcément une maison qui est terminée. Pourquoi je dis ça? Parce que dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on voit dans le livre d'Agée? On voit, ce peuple dit, le temps de bâtir la maison de l'Éternel n'est pas venu. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agée, le prophète, en ces mots: est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle l'Éternel, considérez attentivement vos voies. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils réparaient leur propre maison, faisaient des travaux dans leur propre maison, alors que la maison de l'Éternel n'était pas belle et qu'elle n'était pas finie. Donc, il faut d'abord placer en premier la maison de Dieu, et après, la tienne. Et oui. Ce qui n'empêche pas que tu dois retirer de ta maison tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, tout ce qui déshonore Dieu. Et ça peut être des bouquins, ça peut être des images, ça peut être des objets, ça peut être des CD-ROM, ça peut être tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Moi, je vous invite à faire du nettoyage. Et qu'est-ce qui est arrivé à ces gens qui considéraient leur propre maison avant la maison de Dieu? Les cieux ont refusé la rosée. et la terre a refusé ses produits. Paf. Vous voyez, parce qu'ils n'ont pas considéré les choses saintes d'abord. Ce que Dieu déclare saint. Donc, vous voyez, la réflexion, elle est là. Quatrième chose que Dieu déclare saint, le peuple juif. Non, je ne vais pas faire un dessin, vous connaissez ce que je pense du peuple juif, comment je l'ai au fond de mon cœur. Mais Dieu a déclaré que les descendants de Jacob, c'était le peuple saint d'Israël. Et même si ce qu'ils font n'est pas toujours bien, ça ne change rien. Ils sont spéciaux. Point final. Ils sont spéciaux, particuliers. Et donc, il faut les considérer comme ça. Et je dirais que trois fois, Dieu va rattacher le fait qu'on les considère comme saints et qu'on les honore tels que ça, trois fois, il rattache à une bénédiction. Dieu dit, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Donc il est traité spécialement. Et puis, vous savez bien que ce peuple va se faire casser les reins. On le sait. On le sait. Malheureusement, c'est comme ça. Bon. Mais il reste saint. Daniel dit, j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les yeux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Peuple saint, on est en train de l'encercler sous nos yeux. Le peuple saint. Et Dieu a dit trois fois. Il a dit une fois à Abraham, il a dit une fois à Isaac, quand il a béni Jacob. Et la troisième fois, c'est Balaam qui le dit, « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. » Est-ce qu'il y a un fond d'antisémitisme dans nos cœurs? Est-ce qu'on n'est pas plus... Je ne pense pas ici, mais est-ce qu'on n'est pas plus attaché à la télévision et aux informations de la télévision qu'à la parole de Dieu? Parce que les informations de la télévision vont nous donner des informations complètement déformées par rapport à Israël. Et le résultat, c'est qu'on va dire, « Oh, ces pauvres Palestiniens qui sont toujours matraqués par Israël, qui est très méchant, etc., etc., etc. » Et au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on oublie ce que Dieu dit. Mais Dieu n'a jamais dit ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider les Palestiniens. Mais Israël, c'est la prunelle des yeux de Dieu. Donc, je vous rappelle aussi que c'est la racine, Israël. Que la racine est sainte, pas moi qui le dis. Romains 11, 16. Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et la racine, si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Et vous savez, dans ce livre dont je vous ai parlé, qui est mon livre de chevet en ce moment, eh bien je vous assure, hein, on est arrivé à une période, c'est un virage de l'Église en ce moment. L'Église vire, et l'Église doit se rattacher à la racine. Ce qui ne sera pas rattaché à la racine, tant pis. Mais on arrive à la fin. Hein. C'est la dernière période. Dieu a rendu les Écritures dans les derniers siècles. Il a rendu l'Esprit. Maintenant, il va rattacher la racine. C'est la fin, c'est la dernière période. Si vous prenez la menorah, le chandelier à sept branches, Dieu a rallumé les sept branches, on arrive à la dernière. Et la dernière, c'est raccroché à la racine. Vous verrez, c'est Dieu a un plan. Alors, maintenant, cinquième chose que Dieu déclare saint, c'est le nom de Dieu. son nom est saint. Alors, autrefois, vous savez bien que ceux qui copiaient les copistes de la Bible, copiaient à la main, et quand ils arrivaient au nom de Dieu, ils posaient leur plume et ils en prenaient une autre pour écrire le nom de Dieu. Parce que le nom de Dieu est saint. Vous imaginez la précision, hein ? Et quand les Juifs écrivent le nom de Dieu, ben ils mettent D apostrophe. Ou un D et un point. Hein ? Ils n'écrivent pas le nom de Dieu. Il y a un respect là-dedans. Mais maintenant, je voudrais vous dire qu'est-ce que c'est de profaner le nom de Dieu. Vous savez, dans le livre de Jérémie, au chapitre 34, on voit tous les sept ans, normalement, il y a des Juifs qui avaient des dettes. Et donc, ils étaient devenus les esclaves d'autres Juifs. À cause de ça, pour payer leurs dettes. Et puis, tous les sept ans, normalement, on devait relâcher ces esclaves, leur rendre la liberté. Voilà, c'était une loi juive. Et puis, Jérémie, ça ne se pratiquait pas trop à cette époque-là. Alors, tout d'un coup, à cause de la parole de Jérémie, le peuple fait une alliance avec Dieu, devant Dieu. Et il dit, nous allons relâcher les esclaves, on le promet à Dieu. Et alors il relâche les esclaves. Puis quelques temps après, il se dit, ouais, mais c'était quand même bien hein, d'avoir des esclaves. Et ils vont rechercher leurs esclaves. Et à ce moment-là, dans le livre, il est écrit ceci. Jérémie 34, versets 15 à 18. Vous avez fait aujourd'hui un retour sur vous-même. Vous aviez fait ce qui est droit à mes yeux en publiant la liberté de chacun pour son prochain. Vous aviez fait un pacte devant moi dans la maison dans laquelle mon nom est invoqué. Mais vous êtes revenu en arrière, vous avez profané mon nom. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Vous avez repris chacun les esclaves et les servantes que vous aviez affranchis, rendus à eux-mêmes, vous les avez forcés à redevenir vos esclaves et vos servantes. Voilà. Alors, ils ont fait donc une promesse et ils ne la tiennent pas. Et Dieu dit, voici, je publie contre vous, tac, un décret. Et dit l'Éternel, je publie la liberté de l'épée, de la peste, de la famine, je vous rendrai un objet d'effroi. Vous voyez, profaner le nom de Dieu, c'est tout simple. On fait des promesses à Dieu, devant Dieu, et on ne le tient pas. C'est ça, profaner le nom de Dieu. Il nous est dit, dans Proverbe 20, « C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. » Ou encore, dans le livre de l'Ecclésiaste, « Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas de l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. » Les chrétiens ne sont pas sérieux, vous savez, souvent. Ils sont un peu légers. Alors, Paul constate avec tristesse que ceux qui déshonorent Dieu en étant indignes de lui, ça existe, hein, vous savez. Moi, je dis, les chrétiens sont saints. On va le voir après. Les chrétiens sont saints. Ils sont spéciaux. Mais je dis, en riant et sans rire, il y en a qui sont plus spéciaux que les autres. Et il y en a, par leur vie, qui déshonorent Dieu. Je suis désolé, hein, mais ça existe. Et Paul avait remarqué ça. Et il parlait donc aux Juifs qui déshonoraient Dieu par leur vie. Et il disait, le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. Voyez, pourquoi ? Parce que on prend des engagements, on ne les tient pas. Et les païens qui voient ça disent, ben mon vieux, tu peux toujours te le garder, ton Dieu. Et nous ici, frères et sœurs, on a tous pris un engagement, du moins je pense, je ne vous connais pas tous, l'engagement du baptême, devant le Père, le Fils et Saint-Esprit. Et l'engagement du baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Faites un peu l'analyse. Tous ceux qui se sont fait baptiser et qui ont une vie indigne devant Dieu, non seulement ils ne font pas progresser l'Église, mais ils font blasphémer les païens. Ben oui, parce que c'est une honte. C'est une honte. Mais vous savez que de prendre un engagement, c'est très très important. Dieu le voit. Dans l'Ancien Testament, dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 15, il y avait une période où il y avait une insécurité dans le pays, mais alors, bien, comme maintenant, même pire. Hein, on se faisait des troussées, enfin bref, etc. Il y avait une insécurité et c'était tout simplement parce que le peuple se fichait pas mal de Dieu. Il y a des liens à tout ça, hein. Bon, tout d'un coup, ils prennent conscience. Ils prennent conscience. Et alors, je vous lis le texte. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel. Donc, un jour, ils se réunissent et ils prennent l'engagement devant Dieu, le Dieu de leur Père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et quiconque ne rechercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort. Pouf ! Petit ou grand. Homme ou femme. Ils jurèrent fidélité à la voix, à voix haute, avec des cris de joie au son des trompettes et des cors. Et tout Judas se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de leur plein gré, ils l'avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Simplement l'engagement. Ils ont cherché l'Éternel, tout leur environnement a changé. C'est fou, hein? Mais donc, tous les engagements, passons en revue nos vies. Quels sont les engagements que j'ai pris devant Dieu? Est-ce que je les ai tenus? Parce que vous savez, il y a des liens entre ce que je tiens pas et ce qui m'arrive. Quelquefois, on dit, je sais pas pourquoi, je n'ai que des problèmes, etc. Attends, passe en revue un peu ta vie, là. La sainteté. Que celui qui est saint se sanctifie encore. T'en es où dans ta sainteté, dans ton chemin de sainteté? Vous voyez? Alors, on peut sanctifier le nom de Dieu, on peut le sanctifier, comme on l'a fait tout à l'heure. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, je l'exalterai par des louanges. C'est dans le psaume 69. Ou Daniel, aussi dans le chapitre 2, verset 20, Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartient la sagesse et la force. » On bénit le nom de Dieu. Sixième chose que Dieu déclare saint, Paul nous dit par trois fois que nous, chrétiens, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Inutile de dire que là où est la présence de Dieu, c'est ça. Hein? Je vous ai déjà dit plusieurs fois, je pense, parce que je radote un petit peu, excusez-moi. Hein? Mais que quand on a fait l'engagement du baptême, l'engagement d'une bonne conscience, c'est le nettoyage intérieur. Et parce que c'est propre, le Saint-Esprit vient. Il habite en nous. Mais quand on pêche, on lui envoie par nos bouches, par nos yeux, par nos oreilles, des gamelles sur la tête, des ordures, des épluchures, des excréments. Imaginez un peu l'attitude du Saint-Esprit qui reçoit ça sur sa tête. C'est une image, bien sûr. Mais au bout d'un moment, le Saint-Esprit, il nous est dit qu'il est contrit. C'est-à-dire qu'il se ratatine comme ça. Il ne peut plus trop se manifester, d'ailleurs. Et vous croyez que Dieu le Père va laisser souffrir comme ça le Saint-Esprit indéfiniment? Il nous est dit que quand ça continue trop longtemps comme ça, on peut en mourir. Dieu fait mourir la personne de façon à libérer l'esprit. C'est facile à comprendre ça. Nous sommes saints, un peuple saint. Et vous savez, moi je ne suis pas parfait, hein, loin de là. Et je me suis frité avec des chrétiens. Vous comprenez ce que ça veut dire? Je me suis frité. Mais ça n'empêche pas que ces chrétiens-là, ils sont saints. Ils sont saints. Ils appartiennent au Seigneur. Vous savez, quelquefois je prends une image, c'est tous les chrétiens, ils sont assis en rond, là, comme ça. Le Seigneur est au milieu. Mais ceux qui sont diamétralement opposés, ils ont beaucoup de mal à s'entendre, hein. C'est pas les mêmes caractères, c'est pas les mêmes façons de voir, c'est pas... Il y en a un qui est susceptible, et puis l'autre... et puis ça se frite, hein. Et donc, c'est pour les réunir, il faut qu'ils se rapprochent tous du centre. Voilà, c'est la seule façon. Mais c'est vrai, j'avoue, et je demande pardon au Seigneur, moi je me suis frité avec des chrétiens, oui. Et d'ailleurs, je vous avoue très clairement que je ne marche pas avec eux, j'arrive pas à marcher avec eux. Mais ils marchent dans leur coin pour le Seigneur, oui, ok, et moi aussi. J'ai demandé pardon pour eux, mais on est comme ça. Mais ils sont saints. Ils sont saints. Ils sont spéciaux, quelquefois plus spéciaux que d'autres. Bon. Mais vous voyez, le Seigneur rajoute ceci. On est saints, on est spéciaux, mais on a besoin d'être perfectionné. Il faut comprendre les choses comme ça. Et pour être perfectionné, Dieu donne dans l'Église des ministères. Hein? Alors, premier verset, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ? Vous avez reçu, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Ma vie ne m'appartient pas. Mes enfants ne m'appartiennent pas. » Quelquefois, des parents chrétiens qui ont des enfants qui ne tournent pas bien, etc. On dit, ben oui, tes enfants ne t'appartiennent pas. Ils ont choisi. Et tu te trouves là dans la situation du père avec le fils prodigue qui s'en va. Et le père prie, il pleure. Dieu a été déçu. Jésus a été déçu à plusieurs moments. Quand le père invite pour les noces, il y en a un qui dit, ben moi je ne peux pas venir, j'ai acheté une paire de bœufs, je ne peux pas venir parce que je viens de me marier. Vous croyez que Dieu n'est pas déçu? Et nos enfants ne nous appartiennent pas. On a semé, mais c'est eux qui décident. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Et quand on honore les chrétiens, parce que ce sont des gens particuliers, et en particulier quand on honore les ministères, Alors on a des récompenses de ministère. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. C'est Jésus qui le dit. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. On a un exemple. On a un exemple dans l'Ancien Testament. Vous connaissez tous dans le livre où il y a Élie le prophète. Élie le prophète, il demande à la veuve de Sarepta, qui n'a plus rien à manger, de lui faire un gâteau. C'est pas humain, ce truc-là. On dirait que c'est pas charitable. C'est vrai, il arrive chez une veuve, donc c'est déjà pas rigolo, elle n'a pas de revenus, c'est la famine, et il lui dit, fais-moi un gâteau. J'ai plus rien. Oui, mais enfin, il te reste bien un petit quelque chose, là. Oui, mais je vais faire ça, puis après, je vais mourir. Fais-moi ça quand même. C'est pas humain, mais en faisant ça, elle honore le prophète. Et quand elle honore le prophète, ça tourne une clé. Et elle a une récompense de prophète. C'est comme si il a force à mettre sa main dans le troisième ciel et l'huile va couler. Vous voyez ? S'il ne l'avait pas forcé à faire ça, elle n'aurait pas eu la récompense. Évidemment, c'est dur à comprendre ça, hein. Mais la récompense de prophète, elle est là. Et elle a eu l'huile tout le temps qu'il fallait. Vous voyez ? Alors, ça ne se comprend pas humainement, ça. La septième chose qui est déclarée sainte par Dieu, ça va, vous n'avez pas... J'en ai dix, hein ? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Il nous est dit dans Romains 7, la loi est donc sainte et le commandement est saint, juste et bon. La loi est sainte. Et vous savez que la parole, il nous est dit dans Jean 17, sanctifie-les par ta vérité, la parole et la vérité. Quand on suit un sabbat juif, on commence à le faire maintenant. Dans les prières du sabbat, le vendredi soir, les Juifs disent « Tu nous sanctifies par tes commandements. » C'est-à-dire que tu nous rends spéciaux parce que justement on suit ta parole. Si tu ne suis pas la parole de Dieu, tu n'es pas spécial. Hein ? Mais tu nous sanctifies par ta parole. Et ta parole est la vérité. Vendredi soir, on avait une réunion à la maison sur le sujet, c'était les pensées. Et je disais, toutes les pensées qui nous viennent comme ça, il faut les confronter à la parole de Dieu. Si ces pensées ne sont pas confrontées à la parole de Dieu, vous allez faire n'importe quoi. Mais quand c'est confronté à la parole de Dieu, tu vois si c'est une pensée de Dieu ou d'un autre. C'est comme ça que tu te sanctifies. Parce que les pensées, vous savez, on nous malaxe la tête. Et alors, ça fait tout un enchaînement. Ça fait tout un enchaînement parce que quand on lit la parole, qu'est-ce qu'il nous dit ? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Donc, les saintes écritures, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Donc la parole qui est sainte va nous donner une sainte foi. Et cette sainte foi va nous emmener, Ésaïe nous dit, il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Si vous faites ça, la parole nous donne une foi sainte, une foi sainte va nous conduire dans un chemin saint. Chacun y trouvera sa voie. Faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Vous avez chacun un chemin différent. Chacun. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Le Seigneur, il éclaire nos pieds. Il n'éclaire pas là-bas. Donc, il ne va jamais nous dire, c'est là-bas. Mais c'est à pas de foi. Seigneur, t'éclaire mon pied. Bon, ça va. Je vois qu'il n'y a pas de cailloux, je peux avancer. Il y avait une émission à la télé l'autre soir où il disait qu'en France, il y a un quart des Français qui consultent les voyants tous les ans. Un quart. C'est énorme, hein? Pourquoi? Parce que les gens sont inquiets, etc. Enfin bref. Eh bien nous, on a le droit de voir le bout de nos pieds. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on marche par la foi. On ne peut pas être... Dieu veut... On ne peut pas être agréable à Dieu sans la foi. La foi vient de la parole, etc. Tout est lié. Alors après, huitième chose que Dieu déclare saint, c'est la Seine, la Sainte Seine. Hein? Vous connaissez la parole. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur, que chacun s'éprouve soi-même. J'ai coutume de dire que lorsque on prend la Sainte Seine et que l'on sait que notre conscience, elle n'est pas nette, on le sait, hein? On le sait très bien. Mais on prend la Sainte Seine quand même. Vous savez que l'ennemi, il est là. Et il regarde. Il dit, attends, Seigneur, t'as vu celui-là? Il a pris la Sainte Seine alors que... J'ai un droit sur lui. J'ai un droit sur lui, parce que là, c'est pas net. Hein? Et vous croyez que Dieu peut lui refuser? Dieu est juste. Et s'il a un droit, il a un droit. Et il le prend. Et c'est comme ça, on lit. C'est pour ça que parmi vous, il y a beaucoup d'infirmes, de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est simple à comprendre. Vous croyez qu'on n'est pas regardé? Non seulement Dieu nous voit, mais le malin aussi, il surveille. Le malin est un grand observateur, très grand observateur. Il nous connaît depuis qu'on est né. Il sait que si il appuie là, on va faire ça. Et ça, ça l'arrange bien. Alors, neuvième chose, m'excuse, j'avance un petit peu, le mariage. Hein, le mariage. Inutile de dire que le mariage est sacré aux yeux de Dieu et que le mariage, c'est beaucoup plus qu'un simple contrat. Le mariage, c'est une alliance. Il faudrait peut-être qu'un jour aussi, à l'occasion, on parle de ce que c'est qu'une alliance. C'est une alliance, l'alliance entre les animaux coupés, etc. Il nous est dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Alors, on est dans une situation actuellement dans la société où le mariage est complètement profané. Les gens se mettent ensemble en ayant déjà dans la tête l'idée qu'ils vont se séparer. C'est pour ça qu'ils ne se marient pas, d'ailleurs. Hein? Ou alors, s'ils se marient, c'est parce que c'est pour la maison, pour avoir des emprunts, des machins. Donc, on a complètement profané le mariage. Et il ne faut pas s'étonner qu'il y a des problèmes un peu partout. Dans la vie, il y a deux choix fondamentaux. Le premier choix, c'est de choisir la vie. C'est-à-dire... reconnaître ses péchés, demander pardon à Dieu et suivre le Seigneur. C'est la conversion. Et le deuxième choix, c'est le choix de son conjoint. Parce que si c'est mal choisi, ça va aller sur les conséquences, sur les enfants, etc., 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 etc. Et ça, vous allez voir, les filets, les gens sont pris dans des filets impossibles parce qu'ils ont mal choisi, parce qu'ils n'ont pas suivi la voie de l'Éternel. On en connaît des tas et des tas. Les mariages qui ne sont pas associés un inconverti et un autre. Et même quelquefois deux convertis, encore faut-il qu'ils soient au même niveau. Il faut que ce soit Dieu qui décide. Il faut que ce soit Dieu qui mette toujours la première pierre. Pour que le jour où ça ne va pas, tu dises, Seigneur, j'ai la certitude que c'est toi qui as décidé. Et puis ce n'est pas suffisant. On connaît des gens qui ont divorcé à 50, 60 ans, alors que c'était un mariage que Dieu avait voulu, mais on en avait la preuve. Mais pourquoi ? Parce qu'il y en a un des deux qui s'est détourné du Seigneur, qui est parti dans sa propre voie, ou qui est devenu orgueilleux, on en parlait tout à l'heure, ou qui n'avait pas été soigné comme il aurait dû être soigné. Vous voyez ? Donc il faut faire très attention, c'est quelque chose qui se construit tout le temps. Et je voudrais vous dire un verset clé que j'ai sur mon cœur pour toutes ces choses que Dieu déclare saintes comme ça. Dieu disait à son peuple qui faisait n'importe quoi dans Deutéronome 18-14, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Ah oui, je suis tenté de faire un tas de choses. Oui, mais à toi, Dieu ne le permet pas. Parce que tu es saint. Tu es spécial. Tu es particulier. Alors, non. Et une vraie conversion, ça se voit. Une vraie conversion, on en parlait encore cette nuit, parce qu'on s'est encore réveillé cette nuit. Mais c'est bien, vous savez, on se réveille la nuit, puis on bavarde à deux. Puis après, au bout d'un moment, ça y est, c'est reparti. Et on disait, ce qu'il faut regarder chez les gens, c'est qu'est-ce qui les fait courir. Moi, je fais passer des tests de personnalité à l'école et je dis, ben voilà, on va essayer d'analyser qu'est-ce qui vous fait courir. Qu'est-ce qui te fait courir ? Est-ce que c'est le Seigneur ou est-ce que c'est autre chose ? Chacun peut l'analyser pour soi-même. Hein. Mais quand les gens courent après le Seigneur parce qu'ils ont des problèmes, par exemple, ils courent pas. C'est pas le Seigneur qui les fait courir, c'est leur problème. Et quand on élague tout ça, eh ben, il n'y a plus beaucoup d'élus. Hein. Il y a les appelés et puis il y a les élus. Mais ceux qui courent vraiment parce qu'ils aiment le Seigneur, ils ne sont pas si nombreux. Regardez bien. Beaucoup de gens viennent au Seigneur par intérêt. Ils se servent de Dieu, mais ils ne servent pas Dieu. Eh oui. Quel est ton moteur ? C'est une question. Alors, la Bible donne encore plein d'autres choses hein, qui sont saintes. Il y a les alliances de Dieu, les saintes convocations, la terre sainte, Jérusalem, la ville sainte, les saints anges, la sainte demeure de Dieu, le sacrificateur, les naziréens, les ustensiles du temple, les ornements, la montagne sainte. Il y a même aussi, vous savez, Israël, on est en train de le couper en deux et de le partager. Alors, ben, figurez-vous qu'il y a des frontières saintes. Je plains les nations qui sont en train de découper Israël en morceaux. Alors, encore 5 minutes, ça va ? En constatant dans l'état de nos vies, chacun le fait pour soi, on peut affirmer que même si Dieu nous déclare saints ou spéciaux, il n'en reste pas moins vrai qu'on doit être perfectionné. Ou alors c'est qu'on est rudement orgueilleux. Hein? Bon, et vous savez bien que quelque chose qui est saint, si je prends un verre en cristal, on va pas le mettre sale. Au contraire, lui, on va bien le nettoyer. On va bien regarder à travers. Ah, il y a encore une trace de doigt. Là. On frotte. Donc, vous voyez qu'à ce moment-là, on rattache la sainteté à la propreté. Bien que ça soit différent, l'un va entraîner l'autre. Vous voyez ? Et donc, quelques versets. Là, donc, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible. Conservé irrépréhensible. On vous met dans l'armoire ou on vous met à un autre endroit, hein, vous êtes le verre, il est propre. Il est propre. Conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. C'est bientôt, hein? On n'est pas loin de la paix en Israël, même si la guerre se prépare. Celui qui se sanctifie, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'y a pas de honte à être appelé frères et sœurs. On est tous spéciaux. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Se sanctifier, c'est donc marcher dans la sanctification. C'est considérer ce que Dieu dit saint. Eh bien, on l'honore. On l'honore tel qu'il le dit. Et vous savez, il y a une façon de déshonorer Dieu. Je voudrais l'aborder 2 minutes. 1 Corinthiens 3:17 nous dit « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, nous-mêmes, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Alors souvent on dit « Ben oui, il ne faut pas boire de l'alcool, il ne faut pas se droguer, parce que ça détruit le temple. » C'est vrai, c'est tellement évident. Mais il y a une autre façon. Si vous avez de la rancune, si vous avez de la haine, ça va tellement vous exciter que vous allez vous détruire la santé. Vous vous détruisez vous-même parce que vous êtes rempli de haine. Et c'est là que le Seigneur nous dit « Pardonnez, aimez vos ennemis, etc. » Si tu veux retrouver la santé, pardonne. Même si l'autre ne te demande pas de pardon, laisse tomber, mais je lui pardonne. Tous ceux avec qui je me suis frité, je leur ai pardonné, même s'ils ne sont pas venus me voir. Mais moi, je suis tranquille et j'ai la santé. Vous voyez, tout ça c'est mathématique, c'est très logique le spirituel, c'est très logique. Hein? Alors, je termine. Dernier verset que j'ai déjà donné, mais je l'aime bien. Les responsables, ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur. Que le Seigneur vous bénisse.